Charles Dickens, La Petite Dorrit, 1855, traduction par William Little Hughes, sous la direction de Paul Lorrain, Hachette, 1894. Livre premier, Pauvreté. Chapitre premier, Au soleil et à l'ombre. Il y a une trentaine d'années, Marseille était un jour en train de rissoler au soleil. Dans le midi de la France, un soleil flamboyant par un jour caniculaire du mois d'août n'était pas alors un phénomène plus rare qu'il ne l'a été avant ou depuis, à pareille époque. Tout ce qui existait à Marseille ou aux environs de Marseille avait été ébloui par le ciel embrasé et l'avait ébloui à son tour, tant et si bien que cette manie de s'éblouir réciproquement était devenue universelle. Les voyageurs étaient éblouis par l'éclat des maisons blanches, des murs blancs, des rues blanches, par l'éclat des routes arides et des collines dont la verdure avait été brûlée. Les vignes étaient la seule chose dont l'éclat ne fut pas tout à fait insupportable. Penchée sous le poids du raisin, elle daignait parfois cligner de l'œil, afin de ne pas vous causer un éblouissement continu, lorsque la chaude atmosphère agitait presque imperceptiblement leur feuillage languissant. Il n'y avait pas assez de vent pour former une seule ride, soit sur l'eau fétide du port, soit sur la mer imposante qu'on apercevait au-delà. La ligne de démarcation entre les deux couleurs, bleu et noir, indiquait la limite que l'océan immaculé ne voulait pas dépasser. Mais l'océan demeurait aussi immobile que l'abominable marais auquel il ne mêlait jamais ses flots. Des canaux que ne protégeait aucune tente étaient trop brûlants pour qu'on pût les toucher. La chaleur faisait des cloches sur la peinture des vaisseaux amarrés dans le port. Depuis des mois entiers, les dalles des quais ne s'étaient refroidies ni le jour ni la nuit. Indiens, Russes, Chinois, Espagnols, Portugais, Anglais, Français, Génois, Napolitains, Vénitiens, Grecs, Turcs, descendants de tous les entrepreneurs de la tour de Babel, que le commerce attirait à Marseille, recherchaient également l'ombre, acceptant n'importe quelle cachette, pourvu qu'elle leur servît d'abri contre l'éclat d'une mer d'un bleu trop ardent pour qu'on pût la regarder, et d'un ciel pourpre où étincelait enchâssé un vaste joyau de feu. Cet éblouissement universel faisait mal aux yeux. Vers la ligne lointaine des côtes d'Italie, cet éclat, il est vrai, se trouvait tempéré par de légers nuages de brouillard que formait lentement l'évaporation de la mer. Mais il ne s'adoucissait nulle part ailleurs. Au loin, les routes embrasées sous une épaisse couche de poussière vous éblouissaient du fond des vallées, du versant des collines, de chaque point de la plaine interminable. Au loin, les vignes poudreuses qui retombaient en guirlandes autour des chaumières qui bordaient les chemins, et les avenues monotones d'arbres desséchés qui ne donnaient pas d'ombre, languissaient sous l'éclat brûlant de la terre et du ciel. Il en était de même des chevaux aux grelots endormants, attelés à de longues files de voitures, se traînant lentement vers l'intérieur. Il en était de même pour leurs conducteurs à demi couchés, lorsqu'ils se tenaient éveillés, ce qui leur arrivait rarement. Il en était de même pour les laboureurs épuisés de chaleur, qui se traînaient péniblement au milieu des champs. Tout ce qui vivait, tout ce qui poussait, semblait accablé par l'ardent éclat du jour, excepté le lézard qui passait en courant le long des murs crevassés, ou la cigale qui faisait entendre un chant sec et criard comme le son d'une crécelle. La poussière elle-même était tellement rôtie qu'elle en était brune, et on voyait trembloter l'atmosphère comme si l'air aussi était haletant. Persiennes, volets, rideaux, stores sont tous baissés ou tirés, afin de tenir à distance l'éblouissante clarté. Laissez-lui seulement une crevasse ou un trou de serrure, et vous la verrez darder à travers comme un dard chauffé à blanc. Les églises sont les endroits où elle pénètre le moins. Si vous sortez du crépuscule formé par les colonnes et les arcades, parsemées comme dans une scène fantastique de lampes clignotantes, peuplées aussi comme un rêve de vilaines ombres de vieillards qui sommeillent, crachent et mendient pieusement, vous vous plongez dans une rivière de feu, et il ne vous reste plus qu'à sauver vos jours en gagnant à la nage l'ombre la plus voisine. Or, Marseille, avec ses habitants qui flânaient et s'allongeaient partout où il y avait de l'ombre, Marseille, où les langues avaient cessé de bourdonner, comme les chiens d'aboyer, mais que troublait parfois le tintamarre discordant des cloches d'église et le roulement impitoyable du tambour, Marseille, on le sentait rien qu'à l'odeur du brûlé, était donc en train de rissoler au soleil. À cette époque, il existait dans la ville une prison abominable. Dans une des salles de cette prison, si repoussante que le soleil importun ne la regardait même pas en face, l'abandonnant à quelque clarté de rebut, à quelques lueurs réfléchies, ramassées, Dieu sait où, se trouvaient deux hommes. Auprès des deux hommes, il y avait un banc déchiqueté et défiguré, fixé au mur, et sur lequel on avait grossièrement découpé un damier à coups de couteau, avec un jeu de dames formé de vieux boutons et d'os, qui avait servi à faire la soupe. Un jeu de dominos, deux paillassons et deux ou trois bouteilles. C'était là tout ce que renfermait la salle, sauf cependant les rats et d'autres vermines invisibles, sauf aussi la vermine visible, c'est-à-dire les deux hommes en question. Le peu de jour qu'elle recevait lui arrivait à travers une grille de fer représentant une assez grande croisée qui permettait d'inspecter à toute heure la prison sans quitter les marches du sombre escalier sur lequel elle donnait. Il y avait une large saillie à cette grille, à l'endroit où l'extrémité inférieure des barreaux était scellée dans la maçonnerie, à 3 ou 4 pieds au-dessus du sol. Sur cette saillie reposait l'un de ces deux hommes, à moitié assis et à moitié couché, les genoux ramassés, les pieds et les épaules plantés contre les parois opposées de la fenêtre. Il y avait assez d'espace entre les barreaux pour lui permettre d'y passer les bras jusqu'au coude, et il se retenait négligemment à la grille pour plus de commodité. Tout y sentait la prison, l'atmosphère emprisonnée, le jour emprisonné, l'humidité emprisonnée, les hommes emprisonnés. Tout enfin était détérioré par la captivité. De même que les prisonniers semblaient flétris et hagards, de même le fer était rouillé, les pierres étaient visqueuses, le bois pourri, l'air raréfié et le jour incertain. Pareil à un puits, à un caveau, à une tombe, la prison ne se doutait seulement pas de l'éclat extérieur. Au milieu même d'une des îles à épices de l'océan Indien, elle aurait conservé intacte son atmosphère corrompue. L'homme couché sur la saillie de la fenêtre grillée avait même très froid. Avec un geste impatient, il ramena d'une de ses épaules son large manteau, de façon à le faire tomber plus lourdement autour de lui, et grommela « Au diable ce brigand de soleil qui ne brille jamais ici !» Il attendait sa pâture et regardait obliquement à travers les barreaux afin de voir le bas de l'escalier, avec une expression assez pareille à celle d'une bête féroce irritée par une attente du même genre. Mais ses yeux, trop rapprochés, n'étaient point placés dans sa tête aussi noblement que ceux du roi des animaux, et ils étaient plus perçants que brillants, espèce d'arme pointue offrant peu de surface pour mieux se cacher. Ils n'avaient ni profondeur ni variété. Ils scintillaient lorsque les paupières se levaient ou s'abaissaient. Jusque-là, n'était le service qu'il rendait aux prisonniers, un horloger en eût pu fabriquer une meilleure paire. Il avait un nez recourbé, assez beau dans son genre, mais qui remontait trop entre les yeux, trop rapprochés eux-mêmes l'un de l'autre. Quant au reste, il était grand et robuste de corps. Il avait des lèvres minces, à en juger par le peu que son épaisse moustache en laissait voir, une masse de cheveux secs, d'une couleur indéfinissable dans leur état inculte, mais offrant çà et là des tons rougeâtres. La main avec laquelle il se retenait au barreau de la croisée, toute contournée sur le dos de vilaines égratignures fraîchement cicatrisées, était extrêmement potelée. Elle lui-même était extrêmement blanche, sans la souillure de la prison. L'autre prisonnier dormait par terre sur les dalles, recouvert d'un habit brun de drap grossier. « Lève-toi, animal !» gronda son compagnon. « Je ne veux pas que tu dormes quand j'ai faim. » « Ça m'est égal, maître, » répondit l'animal d'un ton soumis et avec une certaine gaieté. « Je me réveille quand je veux, je dors quand je veux. Ça m'est égal. » Tout en parlant, il s'était levé, secoué, gratté. Il attacha négligemment son habit brun autour de son cou, en croisant les manches. Ce vêtement venait de lui servir de couverture et s'assit en bâillant sur le pavé humide, le dos appuyé contre le mur qui faisait face à la grille. « Dis-moi quelle heure il est ?» grommela l'autre. Midi va sonner dans 40 minutes. » Pendant la courte pause qu'il avait faite, il avait regardé tout autour de la prison comme pour y chercher un renseignement exact. « Tu es donc une horloge? Comment fais-tu pour toujours connaître l'heure ?»« Je n'en sais rien, mais je puis toujours dire l'heure qu'il est, comme l'endroit où je suis. On m'a amené ici pendant la nuit et au sortir d'un bateau. Cela ne m'empêche pas de savoir où je suis. Voyez un peu. Port de Marseille. » Il était déjà à genoux sur les dalles, dessinant la carte avec son doigt basané. Toulon, où il y a un bagne, l'Espagne là-bas, Alger un peu plus loin. Voilà Nice qui se faufile à gauche. En faisant le tour de cette corniche, nous trouvons Gênes, Jeté et Port de Gênes, Lazaretto. La ville est ici. Là, les jardins en terrasse où rougit la belladone. Ici, Portofino. En avant pour Livourne. En avant encore pour Civitavecchia. Puis vous arrivez tout droit à... Comment ? Il n'y a plus de place pour Naples ? Il était arrivé jusqu'au mur à cet endroit de son plan. Mais c'est égal, Naples est là-dedans. Il resta à genoux, regardant son camarade de geôle d'un air assez animé pour une prison. C'était un petit homme au teint basané, vif et agile, bien qu'un peu trapu. Des boucles d'oreilles à ses oreilles brunes, des dents blanches éclairant l'expression grotesque de son visage brun, une barbe épaisse et d'un noir de jais qui encadrait sa gorge brune, une chemise rouge, toute déchirée, s'ouvrant sur sa poitrine brune, un large pantalon de marin, des souliers passables, un long bonnet rouge, la taille entourée d'une ceinture rouge où était passé un couteau, voilà son signalement. « Voyons un peu si je vais revenir de Naples comme j'y suis allé. Tenez, mon maître, Civitavecchia, Livourne, Portofino, Gênes, la corniche devant Nice, qui est là-dedans, Marseille, vous et moi. L'appartement du geôlier et ses clés sont à l'endroit où je pose ce pouce, et c'est là, à mon poignet, que l'on garde le grand rasoir national dans sa gaine. C'est là qu'on tient sous clé la guillotine. » L'autre prisonnier cracha tout à coup sur le pavé, et on entendit une espèce de gargouillement dans sa gorge. Presque au même instant, on entendit une autre espèce de gargouillement dans la gorge de quelques serrures qui s'ouvraient au-dessous de la prison, puis une porte se referma avec bruit. On gravissait lentement les marches de l'escalier. Le bavardage d'une petite voix bien douce se mêla au bruit des pas, et bientôt le geôlier parut, portant sa fille, âgée de 3 ou 4 ans, et un panier. « Comment ça va-t-il cet après-midi, messieurs ? Ma petite, vous le voyez, m'accompagne dans ma tournée pour voir les oiseaux de son père. Fi donc, il ne faut pas avoir peur. Regarde les oiseaux, ma belle, regarde les oiseaux. » Il regarda lui-même fort attentivement les oiseaux confiés à sa garde, tandis qu'il soulevait l'enfant jusqu'à la grille, surtout le plus petit de 2 moineaux, dont l'activité paraissait exciter sa méfiance. « Je vous apporte votre pain, Seigneur Jean-Baptiste, » dit-il. Ils s'exprimaient tous en français, quoique le petit prisonnier fût en italien. « Et si j'osais vous conseiller de ne plus jouer ?»« Vous ne conseillez pas au maître de ne plus jouer, » répliqua Jean-Baptiste, montrant ses dents en souriant. « Oh, c'est que le maître gagne, » répondit le geôlier avec un rapide coup d'œil qui n'annonçait pas une grande sympathie pour l'individu en question. « Tandis que vous, vous perdez. C'est bien différent. » Ça ne vous rapporte que du pain noir et une boisson amère, tandis que ça rapporte au maître du saucisson de lion, du veau à la gelée, et une gelée succulente encore, du pain blanc, du fromage d'Italie et du bon vin. Regarde les oiseaux, ma belle. Pauvres oiseaux, dit l'enfant. Le joli petit visage, touché d'une divine compassion, tandis qu'il jetait un regard craintif à travers la grille, ressemblait à celui d'un ange qui serait venu visiter la prison. Jean-Baptiste se leva et s'approcha de l'enfant, comme s'il se fût senti attiré vers elle. L'autre oiseau ne changea point de position, si ce n'est pour lancer un coup d'œil impatient du côté du panier. « Attendez, » dit le geôlier, posant la petite fille sur la saillie extérieure de la grille, « c'est elle qui va donner à manger aux oiseaux. Ce gros pain est pour Seigneur Jean-Baptiste. Il faut que nous le cassions pour le faire passer dans la cage. » « Voyez donc comme il est bien apprivoisé, cet oiseau. Il baise la petite main. Ce saucisson enveloppé d'une feuille de vigne et pour M. Rigaud. Et puis ce morceau de veau et cette gelée succulente sont encore pour M. Rigaud. Et puis ces trois petits pains blancs sont encore pour M. Rigaud. Et puis ce fromage, et puis cette bouteille de vin, et puis ce tabac, tout cela est encore pour M. Rigaud, l'heureux oiseau. L'enfant fit passer tous ces objets à travers les barreaux, dans la main délicate, lisse et bien faite de M. Rigaud, avec une terreur évidente, en retirant plus d'une fois la sienne et regardant le prisonnier avec une expression ambiguë, entre la crainte et la colère, qui faisait plisser son joli petit front. Elle avait, au contraire, déposé la provision de pain grossier dans les mains noires, calleuses et noueuses de Jean-Baptiste, qui avait à peine au bout de ses 10 doigts assez d'ongles pour en faire un des ongles de M. Rigaud, avec une confiance des plus faciles. Et lorsque l'Italien avait baisé sa main, elle l'avait elle-même passée sur le visage du prisonnier pour le caresser. M. Rigaud, fort indifférent à cette préférence, cherchait seulement à gagner les bonnes grâces du père en riant et en faisant des signes de tête à l'enfant chaque fois qu'elle lui remettait quelque chose. Et dès qu'il eut déposé ses comestibles autour de lui, dans des coins commodes de l'embrasure où il reposait, il se mit à manger avec appétit. Lorsque M. Rigaud riait, il s'opérait dans sa physionomie un changement remarquable qui n'était pas fait pour prévenir en sa faveur. Sa moustache se relevait vers son nez, et son nez descendait sur sa moustache, ce qui lui donnait un air sinistre et cruel. « Là !» dit le geôlier, retournant son panier afin d'en faire tomber les miettes, en le frappant contre le mur, « j'ai dépensé tout l'argent que j'ai reçu. Voici ma note dans ce papier vide. C'est donc une affaire réglée. Monsieur Rigaud, comme je vous le disais hier, le président du tribunal recherchera l'honneur de votre société vers 1 heure de l'après-midi aujourd'hui. » « Pour me juger, hein ?» demanda Rigaud, s'arrêtant couteau en main et morceau dans la bouche. « Vous l'avez dit, pour vous juger. »« Et moi, il n'y a pas de nouvelles pour moi ?» reprit Jean-Baptiste, qui avait commencé à grignoter son pain d'un air résigné. Le geôlier haussa les épaules. « Sainte Vierge, me faudra-t-il rester ici toute ma vie, mon père ?»« Comment voulez-vous que je le sache ?» s'écria le geôlier, se retournant vers son interlocuteur, avec une vivacité toute méridionale et gesticulant avec ses 2 mains et tous ses doigts, comme s'il menaçait de le déchirer en 1000 morceaux. « Mon ami, comment voulez-vous que je vous dise le temps que vous avez à rester ici ? Est-ce que j'en sais rien, Jean-Baptiste Cavaletto ? Mort de ma vie, il y a quelquefois ici des prisonniers qui ne sont pas si diablement pressés de se voir juger. » Il parut jeter un coup d'œil oblique à l'adresse de M. Rigaud en faisant cette observation. Mais M. Rigaud avait déjà recommencé son repas interrompu, quoiqu'il ne parût pas y mettre autant d'appétit qu'auparavant. « Adieu, mes oiseaux !» dit le gardien de la prison, prenant sa jolie fille dans ses bras et lui dictant les paroles avec un baiser. « Adieu, mes oiseaux !» répéta la jolie enfant. Son visage innocent rayonna d'un si doux éclat par-dessus l'épaule de son père, qui s'éloignait avec elle en lui chantant la chanson enfantine. Qu'est-ce qui passe ici si tard, compagnon de la Marjolaine? Qu'est-ce qui passe ici si tard, dessus le quai? Que Jean-Baptiste se crut engagé d'honneur à répondre à travers la grille, et en mesure, quoique d'une voix un peu enrouée, « C'est un chevalier du roi, compagnon de la Marjolaine, c'est un chevalier du roi, dessus le quai. » Ces paroles accompagnèrent le geôlier et sa fille si loin sur ce rude escalier que le père fut obligé de s'arrêter pour que l'enfant pût entendre la fin du couplet et répéter le refrain pendant qu'ils étaient encore en vue. Puis la tête de l'enfant disparut, puis celle du gardien. Mais la petite voix continua la chanson jusqu'à ce que la porte se fût refermée avec bruit. M. Rigaud, ennuyé de voir Jean-Baptiste écouter, avant que les échos eussent cessé de se faire entendre, les échos mêmes semblaient plus faibles et plus traînants de se sentir en prison, lui rappela par un coup de pied qu'il ferait mieux d'aller reprendre sa place dans l'ombre. Le petit Italien alla se rasseoir, avec l'aisance indolente d'un homme depuis longtemps habitué à ce genre de parquet, et plaçant devant lui les 3 gros morceaux de pain en pyramide et tombant sur le 4e, se mit tout bonnement en devoir de les démolir comme si c'eût été un château de cartes. Peut-être regarda-t-il de côté le saucisson de Lyon, Peut-être lança-t-il furtivement un regard d'envie sur le veau entouré d'une gelée succulente. Mais ses comestibles ne furent pas longtemps là pour lui faire venir l'eau à la bouche. M. Rigaud les eut bientôt expédiés, en dépit de M. le Président et du tribunal, et se mit à se laver les mains de son mieux en se suçant les doigts et en les essuyant après sur ses feuilles de vigne. Puis, tandis qu'il s'arrêtait, entre deux gorgées de vin, pour contempler son compagnon, sa moustache se releva et son nez s'abaissa. « Comment trouves-tu ton pain ? » demanda-t-il. « Un peu sec, mais j'ai ici ma vieille sauce, » répliqua Jean-Baptiste, tenant son couteau en l'air. « Quelle sauce ? » ?»« Voilà, je coupe mon pain en tranches de cette façon, comme si c'était un melon, ou de celle-ci comme si c'était une omelette, ou de celle-ci comme si c'était une friture, comme si c'était du saucisson de lion, » répondit Jean-Baptiste, démontrant ses diverses façons de découper sur le morceau de pain qu'il tenait à la main et mâchant sans se presser ce qu'il avait dans la bouche. « Tiens, » cria M. Rigaud, « tu peux boire, tu peux finir ça. » Le don n'était pas des plus magnifiques, car il restait énormément peu de vin à boire. Mais Signor Cavaletto se leva vivement, reçut la bouteille avec reconnaissance, porta le goulot à sa bouche et fit claquer sa langue en signe de satisfaction. « Mets la bouteille avec les autres, » dit Rigaud. L'Italien obéit à cet ordre et se tint prêt à donner à son bienfaiteur une allumette toute allumée, car ce dernier roulait son tabac en cigarette à l'aide de petits carrés de papier qu'on lui avait remis en même temps. « Tiens, tu peux en prendre une. »« Ringrazio, mon maître. » Jean-Baptiste avait remercié dans sa langue maternelle et avec la vivacité insinuante qui distingue ses compatriotes. M. Rigaud se leva, alluma une cigarette, mit le reste de sa provision de tabac dans une poche de côté de son habit et s'étendit tout de son long sur le banc. Cavaletto s'assit sur les dalles, tenant une de ses chevilles de chaque main et fumant avec sang-froid. Les yeux de M. Rigaud semblaient attirés malgré lui vers le voisinage immédiat de cet endroit du parquet où Cavaletto avait dessiné le plan avec son pouce. Il prenait si souvent cette direction que l'Italien les suivit plus d'une fois avec surprise dans leur itinéraire le long des dalles. « Quel satané trou que celui-ci !» dit M. Rigaud, interrompant un long silence. « Vois donc la lumière du jour. »« Du jour ? Allons donc. On dirait la lumière de la semaine dernière. La lumière d'il y a 6 mois. La lumière d'il y a 6 ans, tant elle est terne et morte. » Le jour, en effet, arrivait languissant par un entonnoir carré qui bouchait une croisée dans le mur de l'escalier, à travers lequel on n'apercevait jamais le ciel ni autre chose. « Cavaletto, » dit M. Rigaud, cessant tout à coup de regarder cet entonnoir, vers lequel ils avaient tous les deux dirigé involontairement les yeux, « tu sais que je suis un gentilhomme. »« Certainement, certainement. » »« Depuis combien de temps sommes-nous ici ?» « Moi, il y aura 11 semaines que j'y suis, demain à minuit. Il y aura 9 semaines que vous y êtes, à 5 heures de cet après-midi. »« M'as-tu jamais vu rien faire ici ? Ai-je jamais touché le balai ? Ai-je roulé ou déroulé nos paillassons ? Ou cherché les dames ? Ou ramassé les dominos ? Ou mis la main à aucune espèce d'ouvrage ? Jamais. »« As-tu jamais eu la moindre idée de me voir faire aucune espèce d'ouvrage ?» Jean-Baptiste répondit par ce geste particulier qui consiste à secouer l'index de la main droite en le ramenant vers l'épaule et qui est la négative la plus expressive de la langue italienne. « Non, tu as bien vu tout de suite, dès mon arrivée ici, que j'étais un gentilhomme. »« Altro !» répliqua Jean-Baptiste en fermant les yeux et avec un hochement de tête des plus animés. Ce mot, selon l'intonation que lui donnent les Génois, est une confirmation, une contradiction, une assertion, un démenti, un défi, un compliment, une plaisanterie et 50 autres choses. Cette fois, il représentait avec une énergie qu'aucune expression écrite ne saurait rendre la phrase plus familière « Je le crois bien ». « Ah, tu as raison, je suis un gentilhomme, et je vivrai en gentilhomme, et je mourrai en gentilhomme. Je ne veux pas être autre chose qu'un gentilhomme. » C'est là mon jeu, mort de ma vie, et je reste dans mon rôle partout où je vais. » Il changea de position et s'assit, s'écriant d'un air de triomphe, « Tiens, regarde-moi !» lancé hors du cornet de la destinée, me voilà tombé dans la société d'un simple contrebandier. Claquemuré avec un pauvre petit fraudeur, dont les papiers ne sont pas en règle, et sur lequel la police a mis la main pour avoir mis de plus son bateau à la disposition d'autres petites gens qui désiraient passer la frontière et dont les papiers ne sont pas non plus en règle. Et cet homme reconnaît instinctivement ma position sociale, même dans ce demi-jour et dans un endroit comme celui-ci. « Bien joué, par le ciel, tu vois bien que je gagne à tout coup. » Sa moustache se releva de nouveau et son nez s'abaissa. « Quelle heure est-il maintenant ? » demanda-t-il, le visage empreint d'une pâleur sèche et chaude qui s'accordait mal avec la gaieté qui l'affectait. « Près de midi et demi. Bon, le président va bientôt voir paraître un gentilhomme devant lui. Voyons, veux-tu que je te dise de quoi on m'accuse ? C'est le moment ou jamais, car je ne reviendrai plus ici. Ou bien je m'en irai libre comme l'air, ou bien on m'emmènera ailleurs pour faire ma toilette de barbe. Tu sais où ils gardent le rasoir. » Signor Cavaletto retira sa cigarette d'entre ses lèvres entr'ouvertes et parut, pour le moment, plus déconcerté qu'on ne s'y serait attendu. « Je suis un... » M. Rigaud s'était levé avant de commencer ce discours. « Je suis un gentilhomme cosmopolite. Le monde entier est ma patrie. Mon père était suisse, canton de Vaud. Ma mère était française d'origine, mais elle est née en Angleterre. Moi-même, je suis né en Belgique. Je suis un citoyen de l'univers. » Son attitude théâtrale, il se tenait une main appuyée sur la hanche, sous les plis de son manteau, son air dédaigneux pour son compagnon, qu'il ne regardait seulement pas, préférant s'adresser au mur vis-à-vis, semblait indiquer que l'orateur songeait à répéter un rôle à l'intention du tribunal qui devait bientôt l'interroger, bien plus qu'à se donner la peine d'éclairer un personnage aussi infime que le sieur Jean-Baptiste Cavaletto. « Je peux avoir 35 ans. J'ai vu le monde. J'ai vécu ici, j'ai vécu là, et partout j'ai vécu en gentilhomme. J'ai toujours été traité et respecté comme le doit être un gentilhomme. Si vous voulez essayer de faire tort à mon caractère en cherchant à démontrer que je n'ai d'autre moyen d'existence que la ressource de mon esprit, je vous demanderai quels sont les moyens d'existence de vos gens de loi, de vos hommes d'État, de vos intrigants, de vos financiers. » Il mettait sans cesse en réquisition sa petite main délicate, comme un témoin toujours prêt à attester ses droits au titre de gentilhomme, témoin utile qui lui avait déjà rendu plus d'une fois des services signalés. Il y a 2 ans, je vins à Marseille. J'étais pauvre, c'est vrai. J'avais été malade. Lorsque vos gens de loi, vos hommes d'État, vos intrigants, vos financiers font des maladies et qu'ils n'ont pas assez d'argent devant eux, eux aussi, ils deviennent pauvres. Je descendis à l'hôtel de la Croix d'Or, tenu à cette époque par M. Henri Baronneau. Il avait 75 ans au moins, et quelle santé délabrée! J'habitais l'hôtel depuis quelque chose comme 4 mois, lorsque M. Henri Baronneau eut le malheur de mourir. Ce n'est pas rare de mourir. La chose arrive assez souvent, j'espère, sans que je m'en mêle, n'est-ce pas? Jean-Baptiste ayant fumé sa cigarette jusqu'au bout de ses doigts, M. Rigaud eut la magnanimité de lui en jeter une autre. L'Italien alluma la seconde au centre de la première et continua à fumer, regardant à la dérobée l'orateur qui, préoccupé de son affaire, ne faisait guère attention à son auditeur. M. Baronneau laissa une veuve. Elle avait 22 ans. Elle s'était fait une réputation de beauté et, ce qui n'arrive pas toujours, elle la méritait. Je continuai à loger à l'hôtel de la Croix d'Or. J'épousais Madame Baronneau. Ce n'est pas à moi de dire si une telle union était disproportionnée. Me voici, vous n'avez qu'à me voir, malgré ce que j'ai souffert naturellement d'une longue captivité, et pourtant vous pouvez juger encore si je ne convenais pas à Madame Baronneau beaucoup mieux que son premier mari. Il avait un faux air de bel homme, qu'il n'était pas, et un faux air d'homme bien élevé, qu'il n'était pas non plus. Tout cela n'était que jactance impudente. Mais dans ce cas, comme dans bien d'autres, il y a la moitié du monde qui prend volontiers une assurance fanfaronne pour argent comptant. Quoi qu'il en soit, Madame Baronneau me jugea digne d'elle. Ce n'est toujours pas son bon goût qui peut me faire du tort, j'espère. Le regard de l'orateur étant par hasard tombé sur Jean-Baptiste, au moment où il formulait cette question, Le petit Italien secoua vivement la tête en signe de négation et répéta une infinité de fois à demi-voix, pour confirmer le raisonnement, « Altro, altro, altro ». C'est là que commencèrent les difficultés de notre position. Je suis fier. La fierté peut être bonne ou mauvaise. Mais enfin, je suis fier. Il est aussi dans mon caractère de vouloir être le maître. Je ne sais pas céder. Il faut que je sois le maître. Malheureusement, Madame Rigaud avait seule le droit de disposer de sa fortune. Telle avait été la volonté insensée de feu son premier mari. De plus, le malheur voulait encore qu'elle eût des parents. Lorsque les parents d'une femme viennent faire de l'opposition à un mari qui se pique d'être gentilhomme, qui est fier et qui veut être le maître, la paix du ménage ne peut manquer d'être compromise. Il y avait d'ailleurs un autre sujet de brouille entre nous. Madame Rigaud avait malheureusement des façons un peu vulgaires. Je cherchais à lui donner un ton plus distingué. Ma femme, toujours soutenue en ceci par ses parents, s'irrita de mes efforts. Bientôt des querelles s'élevèrent entre nous. Elles furent ébruitées et exagérées par les calomnies des parents de Madame Rigaud, si bien que tout le voisinage en eut connaissance. On a dit que je traitais Madame Rigaud avec cruauté. Il est possible qu'on m'ait vu lui donner un soufflet, rien de plus. J'ai la main légère, et si on m'a vu corriger Madame Rigaud de cette façon, on a dû voir en même temps que c'était presque histoire de rire. Si les gaietés habituelles de M. Rigaud ressemblaient le moins du monde au sourire qui errait en ce moment sur son visage, les parents de Madame Rigaud avaient bien le droit de dire qu'ils auraient préféré que l'orateur corrigeât sa femme pour de bon et non pour de rire. Je suis sensible et brave. Je ne prétends pas qu'il y ait un grand mérite à être brave et sensible, mais tel est mon caractère. Si la parenté mâle de Madame Rigaud était venue me trouver franchement et ouvertement, j'aurais su ce que j'avais à faire. Ils s'en doutèrent bien, et c'est pour cela qu'ils aimèrent mieux comploter dans l'ombre. Il s'ensuivit une source éternelle de fréquentes et malheureuses collisions entre Madame Rigaud et moi. À chaque petite somme dont j'avais besoin pour mes dépenses personnelles, toujours une querelle nouvelle. Jugez de l'effet que cela devait produire sur l'esprit d'un homme dont le caractère est de vouloir être le maître. Un soir, Madame Rigaud et moi, nous nous promenions comme deux bons amis, je dirais même comme deux amoureux, sur une falaise qui domine la mer. Sa mauvaise étoile porta Madame Rigaud à faire allusion à ses parents. Je raisonnais avec elle à ce sujet, et je lui reprochais de manquer à son devoir, au dévouement qu'elle me devait, en se laissant influencer par la malveillance jalouse que me témoignait sa famille. Madame Rigaud riposta, je ripostais à mon tour. Madame Rigaud s'échauffa, je m'échauffais également, et je lui dis des choses irritantes, je le reconnais. Il est dans mon caractère d'être franc. Enfin, Madame Rigaud, dans un accès de fureur que je dois à jamais déplorer, se jeta sur moi en poussant des cris de rage. Ce sont sans doute ces cris qu'on aura entendus à une certaine distance, me déchira mes habits, m'arracha les cheveux, m'égratigna les mains, piétina et laboura le sol avec ses pieds, et finalement s'élança du haut de la falaise et se brisa le crâne contre les rochers qui se trouvent au bas. Telle est la série de faits que la calomnie a voulu pervertir en cherchant à faire croire que j'avais tenté de forcer Madame Rigaud à m'abandonner la libre disposition de sa fortune et que, sur son refus obstiné de faire la concession que je lui demandais, j'avais lutté avec elle, que je l'avais assassinée. S'avançant vers le rebord où les feuilles de vigne étaient éparpillées, il en ramassa deux ou trois et se mit à s'essuyer les mains, le dos tourné au jour. « Eh bien, » demanda-t-il après un moment de silence, « qu'est-ce que tu as à dire à ça ?»« C'est hideux, » répliqua le petit Italien, qui s'était levé et repassait son couteau sur un de ses souliers, tout en s'appuyant d'un bras contre le mur. « Qu'entends-tu par là ?» Jean-Baptiste continua à repasser son couteau sans répondre. « Veux-tu dire que mon récit est inexact ?»« Altro, » répliqua Jean-Baptiste. Cette fois, le mot était une excuse et signifiait « Oh, nullement !»« Que veux-tu dire, alors ?» Les juges et les tribunaux ont tant de préjugés. « Eh bien !» s'écria l'autre avec un juron et jetant d'un air inquiet le coin de son manteau par-dessus son épaule, « qu'il me condamne !»« Et vraiment, je crois que c'est ce qu'ils feront. murmura tout bas Jean-Baptiste en baissant la tête pour passer son couteau dans sa ceinture. On échangea plus d'une parole d'un côté ni de l'autre, bien que les deux prisonniers se fussent mis à se promener de long en large et qu'ils se croisassent nécessairement à chaque tour qu'ils faisaient. M. Rigaud s'arrêtait parfois à moitié, comme s'il allait jeter un nouveau jour sur sa cause ou pour adresser à son compagnon quelques remontrances irritées. Mais Signor Cavaletto, continuant tranquillement sa promenade avec une espèce de demi-trot grotesque et sans lever les yeux, l'autre en fut pour ses frais. Au bout de quelque temps, ils s'arrêtèrent tous les deux, au bruit d'une clé tournant dans une serrure. Un son de voix succéda au grincement de la clé, puis un bruit de pas se rapprocha, et le gardien de la prison monta lentement l'escalier, suivi d'un peloton de soldats. « Allons, monsieur Rigaud, dit le geôlier, s'arrêtant un instant à la grille, ses clés à la main, ayez la bonté de sortir. Je vais partir en grande cérémonie, à ce que je vois. « Ma foi, si vous ne partiez pas comme ça, répondit le geôlier, vous pourriez bien partir en tant de morceaux qu'il deviendrait difficile de vous rassembler. Il y a une fameuse foule, monsieur Rigaud, et qui ne vous aime guère. » Il disparut de devant la grille, fit tourner la clé dans la serrure d'une porte basse qui donnait dans un coin de la salle, et enleva la barre de fer qui la maintenait extérieurement. « Allons, dit-il en l'ouvrant et en se montrant sur le seuil, sortez !» Parmi les 1000 tons blancs qu'éclaire le soleil, il n'en existe aucun qui ressemble en rien à la pâleur qui couvrait en ce moment le visage de M. Rigaud. Jamais non plus aucune expression de la physionomie humaine n'a ressemblé le moins du monde à l'expression de ses traits dont chaque petite ligne trahissait le battement de son cœur effrayé. On dit toujours « pâle comme un mort, défait comme un mort ». Il y a pourtant une grande différence entre les deux états, car ils sont séparés par toute la profondeur de ce golfe profond qui existe entre la lutte terminée et le moment le plus désespéré du combat. Il alluma une autre cigarette à celle de son compagnon, la plaça entre ses dents serrées, se couvrit la tête d'un chapeau de feutre mou à large bord, rejeta de nouveau le coin de son manteau par-dessus son épaule et sortit dans le corridor latéral sur lequel s'ouvrait la porte, sans plus s'occuper du signor Cavaletto. Quant à ce petit homme, il ne semblait avoir qu'une idée, qu'un désir, c'était de se rapprocher de la porte et de regarder au dehors. Il était absolument comme une bête sauvage qui s'approche de la grille entrouverte de sa cage afin de contempler la liberté extérieure. Lui aussi, il passa ces quelques minutes à observer et à guetter jusqu'à ce que la porte se fût refermée sur lui. Un officier commandait l'escorte, un homme robuste, solide, d'un sang-froid imperturbable, qui tenait son épée nue à la main et fumait un cigare. Il donna des ordres laconiques à ses hommes, qui se formèrent autour de M. Rigaud, se mit à leur tête avec un air de suprême indifférence en disant « Marche !» et sur ce, tout le monde s'éloigna en faisant résonner l'escalier. La porte se referma avec fracas, la clé tourna dans la serrure, un rayon de lumière inusité, une bouffée d'air inaccoutumé semblait avoir traversé la prison, disparaissant sous la forme d'une légère spirale de fumée sortie du cigare de l'officier. Semblable, dans sa captivité, à quelque animal d'une espèce inférieure, à un singe irrité ou à un petit ours exaspéré, le prisonnier, livré à la solitude, avait sauté sur le rebord afin de ne pas perdre un seul coup d'œil du cérémonial de ce départ. Tandis qu'il se cramponnait encore au barreau, qu'il étreignait des deux mains, l'écho d'un grand vacarme arriva jusqu'à son oreille. C'était un mélange de hurlements, de cris, de jurons, de menaces, d'exécrations. On ne distinguait rien qu'un grondement furieux. Le prisonnier, tellement agité que sa curiosité inquiète le faisait ressembler encore davantage à une bête féroce enfermée dans une cage, sauta lestement à terre, courut tout autour de la salle, remonta lentement sur le rebord, saisit la grille et essaya de l'ébranler, sauta encore une fois à terre, courut, remonta et écouta, ne s'arrêtant que lorsque le bruit, s'éloignant de plus en plus, eut cessé de se faire entendre. Combien de prisonniers plus dignes de pitié ont usé leur noble cœur de la même façon, sans que personne y ait songé, sans que ceux qu'ils aimaient de toute leur âme aient imaginé de pareilles souffrances, tandis que de grands rois et de grands empereurs, qui les retenaient captifs, se pavanaient gaiement en plein soleil aux acclamations de la foule. Je dirais même, tandis que tous ces grands personnages mouraient tranquillement dans leur lit, faisant une fin exemplaire et des discours ronflants, tandis que l'histoire, pleine de politesse, plus servile encore que les instruments dont se servent les ministres, les embaumait dans ses éloges. Enfin, Jean-Baptiste, libre désormais de choisir entre ces quatre murs l'emplacement où il lui conviendrait de mettre à profit sa faculté de s'endormir quand bon lui semblait, s'allongea sur le banc, le visage renversé sur ses bras croisés, et sommeilla. Sa soumission, sa légèreté, sa bonne humeur, ses colères passagères, sa facilité à se contenter de pain dur et de pierres plus dures encore, sa facilité à s'endormir, ses élans et ses boutades en un mot, faisaient de lui un véritable enfant de la terre sur laquelle il était né. L'immense éblouissement finit par s'éteindre de lui-même pour un certain espace de temps. Le soleil se coucha dans une auréole rouge, verte et dorée. Les étoiles sortirent du ciel et les vers luisants les singèrent dans l'air inférieur, comme les hommes imitent parfois par un faible rayon de bonté la splendeur des anges. Les longues routes poudreuses et les plaines interminables jouissaient d'un repos absolu, et il régnait sur la mer un silence si profond qu'elle ne murmurait pas un seul mot prophétique de l'époque où elle doit rendre ses morts.